This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction russe, Elena Gabrielane.
Добрый вечер.
À propos de l'entre-deux-tours dans l'élection présidentielle en Ukraine. Olia Horton, de la rédaction en anglais.
Good evening.
À propos du blanchissement des coraux en Australie autour de l'île de Lord Howe. Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Bonsoir.
Pour le lancement de la saison de la France en Roumanie. Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir, ce vendredi qui était la première journée de mobilisation depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika qui remonte à mardi soir. Selon la Constitution, le pouvoir revient temporairement à Abdelkader Bassane qui doit organiser des élections dans les trois mois qui viennent. Olia Horton, après des semaines de manifestations, il y a donc un sentiment de victoire de la rue, une révolution pacifique qui plus est.
Effectivement, mais c'est pas fini. C'est ce qu'on a cru comprendre en écoutant un interview cette semaine avec le docteur Galia Ghalem du centre Carnegie du Moyen-Orient au Liban. Une chercheuse qui confirme que la démission de Bouteflika est perçue comme une victoire, certes, par les manifestants, mais c'est que partiel parce que toutes leurs demandes ne sont pas encore réalisées. Elle explique que le peuple veut aussi le départ de son entourage, de son clan, ses frères, tous ceux qui représentent à leurs yeux la vieille garde. Le point fort, ce qu'elle dit, c'est que c'est la première fois où nous voyons les Algériens dans la rue, tous unis, malgré leurs différences d'âge, leur parcours, les niveaux sociaux ou même les régions d'origine.
Et il faut également pointer le fait que ce mouvement n'a pas de chef en tant que tel.
Exactement. Même sans leader, le mouvement a pu unir le peuple algérien au-delà des frontières géographiques, c'est-à-dire créer une solidarité dans la diaspora, comme vous avez vu ici en France pendant des semaines, les manifestations. Quand on lui demande si cette protestation est comparable au printemps arabe, elle dit pas exactement. Ils ont tendance plus à dire que c'était une révolution de bonheur parce que c'était plutôt paisible. Et elle voit pas une évolution violente dans ce mouvement. Elle dit que c'est la non-violence qui prône. Et donc les manifestants ont su montrer leur maturité politique pour rester focalisés sur leurs demandes.
On l'écoute peut-être ?
Oui, bien sûr. Par contre, elle parle ici des dangers si le mouvement s'effrite.
I think if the demands remain clear and very focused, meaning
quelles sont ces explications précisément ?
Elle dit que si le peuple reste focalisé sur une demande très claire ensemble, le départ du régime, le mouvement continuera à exister. Mais le danger est que les petits groupes de manifestants se forment, par exemple les féministes d'un côté, les Kabyles de l'autre côté, par exemple, et par rapport à leur maturité d'approche, ils sont restés unis jusque-là, mais il faut qu'ils fassent attention.
Est-ce qu'il y a une possibilité de détournement de ce mouvement en faveur des islamistes ?
Le docteur Ghalem s'est justement penché sur cette question dans un article pour Libération. Elle dit que c'est une peur très française, ces mots à elle, mais selon les témoignages qu'elle a recueillis sur le terrain, la mémoire de ce qu'ils appellent la décennie noire, la guerre civile, est trop proche, même pour les jeunes de 20 ans qui sont dans la rue actuellement. Cette histoire les a marqués et les événements de 92, ils n'ont pas envie que cette histoire se répète dans ce sens. Ils sont très conscients des dangers. Ils sont très mobilisés sur les réseaux sociaux. Par contre, elle dit que c'est important maintenant que le mouvement évolue aussi avec les avis qui viennent de tous les côtés, même les islamistes, parce que ça s'appelle une démocratie.
Et ce qui se passe donc en Algérie est suivi de très près dans le monde. Vous parliez de la France. Voyons du côté de la Russie. Elena Gabrielane, quelle a été la réaction de Moscou à ce qui se passe depuis le début de cette crise qui a donc abouti à la démission de Bouteflika cette semaine?
C'est purement une affaire interne dans un pays ami. Voici la toute première réaction officielle que Moscou a exprimée le 12 mars, presque trois semaines après le début du mouvement protestataire. Une semaine après, les mêmes propos a tenu le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, qui s'est rendu le 19 mars en Russie pour transmettre la lettre de Bouteflika à Poutine et opter pour la coopération plus forte. Le président russe est arrivé au pouvoir, je rappelle, presque au même moment qu'Abdelaziz Bouteflika, et Vladimir Poutine observe un silence prudent sur la situation dans un pays qui est un allié historique.
Oui, il ne s'exprime pas, et les chaînes de télévision d'État non plus.
Oui, les premières semaines des manifestations, elles n'ont montré aucune image du mouvement protestataire en Algérie. Donc si les Russes regardent uniquement ces chaînes sans aucune source d'alternative d'information, ils risquent d'ignorer totalement tout ce qui se passait réellement dans ce pays dit « ami de Moscou ». Et suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika, la Russie a appelé à une transition sans ingérence de pays tiers. Et le Kremlin espère que cette transition n'aura aucun impact sur les relations bilatérales.
Avec Oli, on voyait que la France avait peur de l'islamisme. De quoi ont peur les Russes dans la circonstance?
Aujourd'hui, l'Algérie reste le troisième importateur d'armes russes et une dizaine de grandes entreprises étatiques russes travaillent en Algérie, y compris dans le domaine de l'énergie. Et l'objectif essentiel de Moscou est évidemment de préserver ses positions économiques, selon le spécialiste de cette région, Georgi Assatryan, qu'on avait interviewé.
On va essayer de faire en sorte que, dans toutes les politiques politiques,
alors, qu'a-t-il déclaré à votre micro?
Il dit que la Russie fera tout pour préserver ses intérêts économiques dans n'importe quelle circonstance politique. Pendant toutes ces années, l'Algérie était le pays d'un seul homme où beaucoup de choses dépendaient de sa volonté. Et pour Moscou, cela reste encore un mystère, ce qui va se passer avec le changement de pouvoir. Et bien sûr, les autorités peuvent poursuivre la ligne géopolitique et la coopération économique héritée de Bouteflika. Mais il peut y avoir aussi des changements. Et Moscou, selon Georgi Assatryan, redoute ses concurrents, qui sont la France, l'Italie, la Chine et les États-Unis.
Autre chose, Matej Wichniak, c'est la question de savoir quelles leçons vont être tirées par les autres pays de la région en général et pour les régimes autoritaires en particulier de ce qui se passe en Algérie.
Une première leçon à tirer, c'est que toute dictature ou tout régime autoritaire finit lorsque le mur de la peur tombe, lorsque les peuples surmontent leur peur. Cela a été le cas en Roumanie en décembre 89, lorsque tout d'un coup la peur s'est dissipée, les gens sont sortis dans la rue pour demander le départ de couple Ceausescu et le changement de régime. Je crois que ce qui se passe en Algérie donne à penser en ce moment à beaucoup de présidents qui s'éternisent au pouvoir, par exemple à Vladimir Poutine, à Recep Tayyip Erdogan ou peut-être à Xi Jinping. Une autre leçon, c'est que les manifestations pacifiques portent finalement leurs fruits. Jusqu'à maintenant, le peuple algérien a été exemplaire de ce point de vue.
Et on peut dire que la peur a changé de camp finalement.
Oui, les clans qui se trouvent derrière d'autres chefs autoritaires et manipulateurs ont peur en ce moment. Je suis sûr que le cas algérien a des résonances en Asie centrale, dans des pays comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, mais aussi en Europe, en Biélorussie. En Afrique, on peut recenser une vingtaine de dictatures, on dénombre une dizaine de présidents africains qui sont à la tête de leur pays depuis plus de 15 ans. Le départ de Bouteflika ouvre un espoir aussi pour d'autres régions, même si les régimes ne sont pas toujours comparables.
Alors la presse parle de sortie sans gloire d'Abdelaziz Bouteflika. Et vous, Matej Wichniak, vous avez lu précisément et commenté la lettre d'adieu qu'a envoyée Bouteflika à son peuple.
Une lettre dans laquelle il demande d'ailleurs pardon à son peuple, ce qui est un geste notable, on peut dire mieux vaut plus tard que jamais. Il demande aussi aux Algériens de rester unis. Difficile à dire si c'est vraiment Bouteflika qui a écrit cette lettre ou son clan qui cherche une manière de s'échapper ou d'échapper au jugement populaire. J'observe que très peu de présidents autoritaires et de dictateurs ont demandé pardon à leur peuple. Robert Mugabe a dirigé pendant 37 ans Zimbabwe sans demander pardon lors de son départ. Ni Jacob Zuma en Afrique du Sud n'a reconnu ses erreurs. Dans la catégorie des présidents qui ont fait quand même mea culpa, il faut retenir le Tunisien Ben Ali, mais il était déjà en exil. Et en Égypte, Hosni Moubarak, au moment où il a décidé de demander pardon aux Égyptiens, il était en prison.
Une autre question qui se pose en Algérie, c'est « Et maintenant, Matéi ?»
L'Algérie est encore traumatisée après la guerre civile qui a fait plus de 150 000 morts. Il faudra donc éviter à tout prix de retomber dans la violence ou dans le chaos qui existe en Libye. Le modèle égyptien de la dictature militaire n'est pas non plus la meilleure solution. Je pense que c'est le modèle tunisien qui devrait inspirer l'Algérie. Mais il y a aussi cette question qui se pose. Par exemple, la France peut aider en ce moment l'Algérie. À Paris, on observe les événements avec une grande prudence.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Accent du Monde sur la situation en Algérie ce soir.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Live with me, today's headlines.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Avec la rédaction russe, revenons sur l'élection présidentielle en Ukraine, alors que nous en sommes à l'entre-deux-tours. Elena Gabriela, vous avez couvert le premier tour, qui a vu le président sortant Petro Poroshenko recueillir presque 16% des voix. Mais Il est devancé par le comique Vladimir Zelensky. 30% d'Ukrainiens ont voté pour lui. Alors tout d'abord, comment expliquer le succès de ce novice en politique?
Alors c'est le favori le plus atypique que l'Ukraine a jamais connu dans son histoire. Vladimir Zelensky est très populaire, notamment en tant que comédien qui a joué le rôle du président dans une série télévisée Le Serviteur du Peuple. Et aujourd'hui, il est perçu comme candidat anti-élite. Il affronte le président sortant Petro Poroshenko, qui est largement contesté par la population, notamment pour des problèmes de corruption et la hausse des prix. Sa campagne électorale est plus traditionnelle autour du slogan patriotique « langue, religion, armée », alors que le comique, lui, il a transformé sa campagne en tournée de son show humoristique, qui d'ailleurs a toujours été extrêmement politisé. Zelensky évitait le débat, des interviews avec des journalistes, les sujets qui fâchent, et il préfère des discours via les réseaux sociaux où il s'exprime aussi bien en ukrainien qu'en russe, dans ce pays parfaitement bilingue. Et après avoir fait son show politique, il a passé le premier tour et aujourd'hui, ce favori du scrutin dicte les règles du jeu.
Alors Zelensky évitait les débats, venez-vous de dire. Or, il y a une tradition dans l'entre-deux-tours, c'est que les qualifiés débattent ensemble.
Oui, c'est le cas en Ukraine et le favori a posé ses conditions dans un message vidéo.
Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь.
C'est donc Zelensky qui parle.
Voilà, oui, il dit vous m'appelez à débattre, vous avez cru que j'allais m'enfuir ou me cacher. Non, je ne suis pas comme vous en 2014. J'accepte le défi, je vous donne 24 heures, réfléchissez, déclare Vladimir Poutine à Petro Poroshenko depuis le stade de Kiev où il invite le président, alors le stade où il y a eu l'Euro 2012, le plus grand stade d'Ukraine. Et quelques heures plus tard, c'est Petro Poroshenko qui lui répond, accepte le format du débat et répond aussi dans une vidéo.
Et débattre, c'est pas show. Виборча кампанія – це подія, яка визначає майбутнє країни і нації.
C'est donc la réponse de Poroshenko à Zelensky.
Voilà, il dit que le débat n'est pas un show et être président et commandant en chef n'est pas un jeu, mais en stade, eh bien allons-y pour un stade. Je vous attends, rétorque le président ukrainien à son adversaire. Et ce dernier a posé également d'autres conditions de débat. Vladimir Zelensky réclamait un examen médical des deux candidats pour prouver au peuple qu'ils ne sont ni alcooliques ni toxicomanes. Alors, il semblait faire référence aux rumeurs selon lesquelles il consommerait de la cocaïne et Petro Poroshenko abuserait de l'alcool. Et débat politique dans un stade olympique de Kiev ayant accueilli l'Euro 2012, comme j'ai rappelé. Examen médical et tout cela peut paraître comme une blague, mais ce n'est pas du tout une blague. Et le comique propose à Yulia Tymoshenko, une autre opposante étant arrivée la troisième au premier tour, d'animer ce débat. Elle n'a pas encore donné sa réponse.
Et en quelques mots, ce que prévoit la loi concernant ces échanges publics politiques?
Alors le débat doit se dérouler le dernier vendredi précédant le vote et dans le studio de la première chaîne publique, toute discussion autour du sujet de débat peut paraître comme une campagne électorale que les candidats n'ont pas le droit de mener tant que la commission électorale n'a pas encore annoncé officiellement la date de second tour qui normalement est prévue pour le 21 avril.
Elena Gabriela de la rédaction russe de RFI. En Australie, des scientifiques affirment que les températures extrêmes de l'été dernier ont provoqué le blanchissement de quasiment tous les coraux sur l'île Lord Howe, qui se trouve à 700 km au nord-est de Sydney. Alors, il est souvent question de blanchissement des coraux sur la Grande Barrière de Corail, qui se trouve donc sur la côte nord-est du pays. Mais cette fois, le parc marin concerné est beaucoup plus au sud, à presque 2000 km plus bas dans l'océan Pacifique. Olia Horton, de la rédaction en anglais, tout d'abord, rappelez-nous ce qu'est le blanchissement du corail.
Très rapidement, c'est une décoloration du corail à cause de la perte de pigmentation des algues. Le corail est en fait un animal qui maintient une relation avec les algues, c'est une symbiose. Sans algues, les coraux deviennent blancs. Ces algues utilisent des déchets métaboliques dans les coraux pour faire une photosynthèse et quand il n'y a plus d'algues nourrissantes, le corail risque de mourir, mais ce n'est pas forcément un cas où il meurt. Les coraux ont la capacité de survivre, mais ça devient beaucoup plus fragile et plus vulnérable. vulnérables et l'effet de serre augmente à la fois la température de l'acidité des océans, formant une des causes pour le blanchissement.
Pourquoi ces zones présentent un intérêt si important pour les scientifiques?
Les scientifiques sont tout simplement très inquiets. Ils savent pas, ils connaissent pas toutes les raisons pour les blanchissements dans les zones tropicales du monde, mais ils savent que c'est à cause de la pollution, les êtres humains, qu'il y a un effet très négatif qui va jouer sur l'avenir. Dans cette zone en Australie, RFI a parlé avec une scientifique, Tess Moriarty, une chercheuse qui a d'abord exprimé son désarroi quand elle a vu la température, enfin les effets sur les coraux, et les débats étaient remarquants très près de la côte. Et dans son étude, elle fait des tests pour savoir si une récupération est possible, mais elle a dit que c'était très choquant.
Bloodhound Island, it's sometimes being referred to as the Western Pacific Galapagos Islands.
Quelle est son expertise?
Elle dit que cette zone est très importante parce que c'est unique au monde. C'est comparable à l'archipel de Galapagos, car il y a des espèces qui existent que ici, sur l'île de Lord Howe, mais aussi dans l'océan. Sans les récifs coralliens, les écosystèmes perdent leur fonction essentielle, et les espèces marines autour subissent un impact négatif, les poissons, etc. L'industrie de la pêche est bien sûr affectée, et l'industrie touristique est aussi touchée, car les coraux dans leur état naturel étaient quand même une vision sublime.
Merci à vous, Olia Horton, de la rédaction anglophone de Radio France Internationale. La Roumanie assure en ce moment la présidence de l'Union européenne, en plus de quoi a lieu une saison culturelle commune entre ce pays et la France. Le premier volet, marqué par la présence de la culture roumaine en France, se termine en quelques jours, mais un autre volet commence, Matej Wichniak.
Le second volet de la saison France-Roumanie 2019 débutera le 18 avril avec le lancement de la saison de la France en Roumanie. Il y aura beaucoup, beaucoup de spectacles, expositions, enfin, pèlerinage artistique français en Roumanie. Mais ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'événements franco-roumains à Lyon et dans la région lyonnaise. Un focus sur le polar roumain au salon Quai du Polar, des artistes roumains qui sont venus pour le festival Mirage, axé sur les nouvelles technologies et les arts de spectacle. Toujours à Lyon, il y a eu un forum franco-roumain de la coopération décentralisée et le Théâtre Les Célestins de Lyon a organisé une semaine de théâtre roumain. Et ce n'est pas tout. Pourquoi autant d'événements à Lyon? Écoutons le commissaire roumain pour la saison commune France-Roumanie, André Tserna.
Cred că Lyon a adunat atâta energie și interes din două motive. O dată pentru că Lyon și regiunea
Andrea Tarnea, que vous dit-il?
Une première raison pour laquelle Lyon a attiré autant d'énergie et a eu cet intérêt pour la Roumanie, c'est que dans cette ville et dans la région Rhône-Alpes vivent environ 45 000 Roumains de toutes les catégories, venus de toutes les régions de la Roumanie. Il y a des Roumains qui vivent ici depuis longtemps, mais aussi des jeunes qui viennent d'ici installer. Je signale aussi qu'entre le 17 avril et 29 juillet, à Paris, au musée du Louvre, s'ouvre une exposition sur l'art byzantin roumain. C'est très important, pour la première fois d'ailleurs. Exposition intitulée « Broderie de tradition byzantine en Roumanie du 15e au 17e siècle.
Alors si la Roumanie attire l'attention par sa culture et l'énergie des jeunes artistes, on ne peut pas dire la même chose sur le plan politique, Matej. C'est ainsi que la Commission européenne a adressé un sévère avertissement à la Roumanie sur sa réforme controversée du système judiciaire.
Oui, l'exécutif européen surveille avec inquiétude les velléités du gouvernement de Bucarest de réformer le système judiciaire du pays à coup d'ordonnance. Et c'est là pour faire sortir des prisons un certain nombre de responsables politiques et de patrons corrompus proches du pouvoir. La Commission européenne a menacé Bucarest d'user, je cite, « tous les moyens à sa disposition si le gouvernement roumain continue sur cette voie ». Je précise que le paysage politique roumain est divisé entre un président pro-européen de centre-droite et un gouvernement de gauche très critique à l'égard des institutions européennes. Personnellement, je suis inquiet car il y a des responsables roumains qui voudraient justement échapper à la surveillance de Bruxelles, mais la grande majorité des Roumains considèrent que l'Europe est la seule chance pour la Roumanie pour éviter qu'un système clanique ne s'installe dans le pays.
Un mot du premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans. Qu'est-ce qu'il a dit lors d'un point de presse à Bruxelles?
Il mérite d'être cité. Lors d'un point de presse à Bruxelles, il a dit « Je veux mettre en garde contre toute action du gouvernement roumain qui entraverait le système judiciaire roumain en créant de facto une impunité systémique pour les hauts responsables politiques qui ont été condamnés pour corruption.
Matei Vichniac de la rédaction roumaine de RFI, merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité du monde. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.